Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Avec, pour présenter cette émission, donc Laurent et Corentin, avec Claude à la technique. L'émission de ce soir s'intitule « Économie numérique, quoi de neuf ?» Elle est consacrée aux conséquences économiques et sociales de ce qu'on peut appeler la nouvelle économie, qui n'est plus vraiment nouvelle, mais l'économie numérique. Donc on cherchera à comprendre en quoi le numérique bouleverse l'économie et quelque part la société et questionne le rapport à la logique d'entreprise ou au travail. Face à des pratiques de rémunération qui relèvent parfois de l'exploitation, face à des fermetures sauvages d'entreprises qui laissent les travailleurs sur le carreau, face à des comportements parfois de prédation et à l'évitement ou à l'évasion fiscale, on peut se demander en quoi l'économie numérique est-elle si nouvelle avec parfois des comportements qui relèvent typiquement d'entreprises multinationales classiques. Donc ces entreprises de la nouvelle économie sont-elles vraiment différentes des entreprises de ce qu'on pourrait appeler par comparaison la vieille économie? Donc pour discuter de ces sujets, nous recevons ce soir deux invités. Donc Laurence Pache, donc vous êtes professeure agrégée de philosophie, enseignante en diplôme supérieur d'art appliqué donc en Aquitaine, au pôle supérieur de design de la Nouvelle-Aquitaine, du lycée Raymond Levy de la Souterraine, exactement.
C'est ça.
Et secrétaire national du Parti de gauche en charge des services publics et de la ruralité. Et puis nous avons donc Yann Le Polotech. Donc vous êtes informaticien, organisateur des états généraux de la révolution numérique et responsable du numérique au PCF. Donc bienvenue à vous deux. Donc vous pourrez, chers auditeurs, également réécouter cette émission mercredi prochain à 7h du matin sur Fréquence Paris Pluriel ou la podcaster comme toutes les précédentes sur le site internet de la Fondation Copernic et celui de Mode d'emploi.
Donc, pour entamer cette première partie, notre objectif sera de définir ce dont on parle, la nouvelle économie numérique. Et du coup, quelles sont les différentes formes? On va voir qu'il y a beaucoup de familles différentes, que le sujet est très vaste. Et on va commencer par élargir et définir ce que c'est avant de converger pour essayer de bien cibler les impacts. Et du coup, je demande à Yann de nous faire peut-être une petite introduction sur le sujet.
Bah, d'abord, il y a déjà une première catégorie nouvelle, enfin, si on peut dire. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme. C'est-à-dire, bon, plus connu des plateformes étant Uber, puisqu'elle a été très médiatisée. Et le capitalisme de plateforme, bah, c'est l'idée de mettre directement en relation des gens qui demandent un service ou un bien, et puis, par un algorithme, et puis des gens qui fournissent ce service ou ce bien, on pourrait appeler des travailleurs. Alors, bon, tout ça pourrait se passer très bien, et puis bon, souvent, on parle d'économie du partage, d'optimisation des ressources, etc. Mais la réalité, quand vous prenez une entreprise comme Uber, bah, je dirais que c'est un peu de l'hypercapitalisme, parce que Uber... Ben, il fait avancer les moyens de production par les travailleurs en question, enfin les chauffeurs Uber, puisque c'est eux qui achètent la voiture, le GPS, le machin, etc. Et puis, lui, il prend une commission de 25%, ce qui est énorme. Énorme, hein. Vous avez une entreprise comme Airbus, c'est pas 25%. Leur taux de profit, c'est de l'ordre de 5%. Donc, on voit ce que ça représente sur du travail. Donc lui, il prend aucun risque, parce qu'on dit toujours les capitalistes prennent des risques, mais là, en l'occurrence, Uber, c'est les chauffeurs qui prennent les risques. Et en plus, il a un système de contrôle qui est extraordinaire, c'est le système des notations. C'est-à-dire que les chauffeurs notent les clients, et les clients notent les chauffeurs. Donc les chauffeurs passent leur vie à la fois, ils ont un double travail, c'est-à-dire qu'ils travaillent à... bien sûr, transporter les gens d'un point A à un point B, mais en même temps, ils passent leur vie à soigner leur réputation. Parce que chez Uber, vous n'êtes pas licencié. Vous disparaissez de l'application si vous n'avez pas le nombre de bonnes notes. Et inversement, si vous êtes client et vous êtes mal noté, vous ne trouvez plus de chauffeur Uber.
D'accord.
Donc c'est une forme d'auto-exploitation très forte. Et alors, bon, ça, je alors, parle.
On revient. C'est très intéressant.
Vous voyez, mais très chaud.
Mais on reviendra en deuxième partie sur les impacts et puis décrire peut-être plus en profondeur les modèles. Mais donc on a juste sur le contour du sujet. Donc il y a ces capitalismes de plateforme. Peut-être Laurence Page, vous voulez compléter.
Oui. Enfin moi, ce que je voulais dire, c'est que en réalité, il y a peut-être trois choses, quoi. Il y a la possibilité de constituer des bases de données d'informations qui sont absolument considérables, c'est-à-dire que l'humanité a toujours constitué des bases de données d'informations, ça c'est pas nouveau, mais par contre, la quantité d'informations que l'on peut récolter et mettre en relation par le biais des algorithmes est absolument gigantesque. Deuxième point, c'est effectivement, comme je viens de dire et comme Yann l'a dit à l'instant, la possibilité de calculer, c'est des modèles computationnels, de calculer de manière très rapide par le biais de ces algorithmes. Et le troisième élément, c'est la capacité de constituer des services qui sont des applications, qui sont destinées à rencontrer des usages, voire à les créer. Moi, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est cela. C'est-à-dire que non seulement on utilise ces bases de données, on utilise ces algorithmes, mais en plus on invente des usages qui vont avoir, comme on l'abordera je suppose tout à l'heure, des effets en retour sur à la fois le tissu économique, mais également sur le tissu social, voire même parfois sur notre propre définition, notre propre identité en tant que citoyen.
Pour illustrer ces bases d'infos, on parle de Facebook, on parle de Google, c'est ça ?
Tout à fait. Et puis c'est vrai que ce à quoi on assiste sans doute, c'est à la capacité de non seulement de rassembler les informations, mais en plus de les monétiser, c'est-à-dire de les vendre. Parce que, bon, évidemment, on pense tous à Uber et aux plateformes, les myriades de plateformes qui proposent des services, mais n'oublions pas quand même la gigantesque captation de nos données personnelles qui est faite par ce qu'on appelle les GAFA ou les GAFAM, enfin bon, bref, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, voilà,
et
Apple, bien sûr, qui s'approprient l'ensemble des informations que nous laissons l'ensemble des réseaux sociaux sur Internet et qui en font un usage capitalistique, c'est-à-dire qu'ils se les approprient pour en faire du profit.
Avec le fameux dicton, si le service est gratuit, c'est que le produit, c'est nous.
C'est ça, et en réalité, ce à quoi on assiste, c'est au fait que la valeur ajoutée, c'est nous qui la créons maintenant. Sauf que nous la créons pour la livrer aux mains de ceux qui possèdent les bases de données et les algorithmes dont ils se servent.
Donc ça aussi, on pourrait y revenir peut-être. Yann, vous voulez compléter ?
En même temps, je pense qu'il ne faut pas surestimer le pouvoir de ces gigantesques bases de données. Parce que l'un des gros problèmes, c'est que souvent les données ne sont pas propres. C'est-à-dire que on vend des choses, beaucoup d'algorithmes prédictifs, on va vous expliquer que grâce à l'ensemble des données, on va pouvoir prédire ça. Il y a même, en politique, ça se vend même. D'ailleurs, il y en a qui peuvent vous prévoir des coups d'État, des émeutes. Ça marche pas mal pour les épidémies de choléra, ça marche un peu moins bien pour les événements politiques. Mais en fait, derrière ça, il y a tout un prolétariat de la donnée qui se constitue. C'est ce qu'on appelle le digital labor, et dont l'exemple, l'un des exemples pires est Amazon Mechanical Turk, mais en France, on a Full Factory, avec lequel l'éducation nationale malheureusement travaille.
Alors, vous pouvez juste expliquer.
Voilà. Alors c'est du travail, parce que généralement le problème des données, pour être efficace, c'est là où le capitalisme confond beaucoup de choses, c'est qu'une donnée, c'est pas une richesse en soi. Ce qui est une richesse, c'est l'information. Il faut qu'il y ait du travail humain pour transformer une donnée en information. Et le problème, c'est que souvent, les données sont pas nécessairement... Alors bon, si vous mettez des capteurs sur un moteur d'avion, vous aurez des super données. Tout ce qui a trait à la vie humaine, les données, elles sont parfois dépareillées, elles sont pas normées. Enfin, il y a plein de problèmes, en particulier en médecine, etc. Donc derrière, vous mettez des gens dont le boulot, et c'est des micro-tâches qui sont vendues aux enchères et qui sont dans des fermes à clics en Indonésie, en Inde, etc., où les gens sont payés ou parfois pas payés, où... parce que vous avez une réputation à tenir et parfois il faut faire du travail gratuit pour tenir votre réputation. où justement on nettoie les données.
Donc concrètement, c'est des endroits où il y a des gens qui reçoivent des données et dont le travail est de les compiler, de les analyser. Oui. Pour les faire transparaître en information.
Oui, parce que par exemple, si vous voulez, pour tout ce qui est analyse de l'image, par exemple, les logiciels d'intelligence artificielle ont un petit peu de mal à repérer les choses. Et puis parfois, vous avez des images qui sont mal indexées. Donc il faut des gens derrière qui reprennent les choses. C'est typique aussi ce genre de problème. On nous parle beaucoup de la télémédecine. Mais l'un des gros problèmes, c'est la saisie des données, la pertinence des données qui sont saisies. C'est-à-dire que la micromédecine, la télémédecine, ça marche très bien, mais pas pour remplacer des médecins. Ça marche avec des médecins. Et effectivement, là, c'est très pertinent. Mais ceux qui expliquent qu'on va remplacer les déserts médicaux par de la télémédecine, c'est de la folie furieuse.
Alors, quelle est un peu la tendance ou l'essor de cette économie ? C'est vrai qu'on voit émerger plein de plateformes et ce que vous dites là me fait écho, c'est-à-dire qu'on trouve souvent des projets, on voit qui lèvent des fonds et on se dit mais comment c'est possible quoi de lever des fonds avec une simple idée ? Alors après on se dit mais est-ce que on lève des fonds puis le truc de toute façon est pas rentable et dans 2 ans ça existe plus, ou est-ce que il y a beaucoup de concrétisation d'idées, enfin voilà, quelles sont un peu les tendances, peut-être Laurence Pache?
Ce à quoi on assiste, c'est à une efflorescence effectivement de start-up dont certaines sont assez éphémères en réalité, hein. Et les autres rachetés par les grands groupes, hein, que l'on a cités tout à l'heure. Donc il y a une sorte d'emballement du système. Il y a quelques jours, Alternative Économique publiait un article sur la nouvelle bulle que constituaient ces plateformes, et notamment Uber pour ne pas la nommer, ça va de soi, mais toutes les autres avec. Donc on voit qu'il y a une sorte de fragilisation en quelque sorte du système, c'est-à-dire qu'on pousse les individus à créer leur bonne idée. Même vous savez que Google fait cela, c'est-à-dire que Google donne la possibilité à ses salariés d'utiliser une part du temps de travail pour des projets personnels, de manière à pousser chacun à créer sa start-up pour pouvoir après éventuellement la racheter. Donc on pousse les individus à s'inscrire dans une logique de création individuelle d'entreprise.
Donc il y a un foisonnement d'initiatives.
C'est ça. Et un foisonnement qui repose sur... je voulais quand même revenir un peu sur ce que disait Yann à l'instant, qui me semble vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que ça repose quand même sur une division du travail qui est... qu'il faut noter quand même, c'est-à-dire que la répartition en classe sociale numérique, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, mais il y a une classification en quelque sorte qui s'opère, c'est-à-dire entre ceux qui sont les rois des grandes entreprises type Mark Zuckerberg ou les autres, ceux qui sont effectivement les petits artisans du numérique et ceux qui sont le lumpen prolétariat auquel Yann faisait référence tout à l'heure, et on peut penser par exemple à l'emploi de ces millions de petites mains qui nettoient les réseaux sociaux, par exemple. Facebook emploie des gens pour faire le nettoyage, la modération, hein, de ce qui est publié sur sa plateforme, et c'est un travail qui génère du burn-out, qui est extrêmement difficile parce que les gens sont confrontés à la lie de ce qui est publié sur Internet, et pour un salaire qui est parfois dérisoire. Il faut rajouter à ça une quatrième classe sociale qui est celle à laquelle on ne pense malheureusement jamais, qui est celle des producteurs de nos outils, de nos appareils. Je pense par exemple aux sous-traitants d'Apple ou des autres, hein. Vous rappelez qu'il y avait eu le scandale Foxconn il y a quelques années, Samsung il y a peu également. On voit ces producteurs d'objets qui se travaillent dans des conditions absolument déplorables et pour des salaires de misère, soumis à des émanations toxiques ravageuses pour leur santé, et bien évidemment il faut y rajouter l'exploitation des mines de métaux rares qui sont nécessaires pour produire nos outils. Donc on voit qu'il y a une Enfin voilà, le capitalisme n'a pas disparu, ça serait une bonne nouvelle si c'était le cas. Et il trouve dans l'ensemble de l'écosystème numérique de quoi se nourrir.
On est loin de l'économie du partage.
Du coup, on a vu qu'il y avait l'économie sur la plateforme, l'économie sur les bases de données d'information. Est-ce qu'il y en a d'autres, d'une part? Et d'autre part, ma question à vous, Yann, c'est est-ce que la tendance qu'on est en train de dégager, c'est pas que la valeur ajoutée, elle est produite soit par gratuitement, par en fait ou à bas coût ou délocalisée, par des petites mains sans contrat. C'est ça la tendance de l'économie numérique ou c'est réducteur?
Je pense que c'est il y a ça et son contraire. C'est pour ça que je pense que c'est d'ailleurs ça rejoint l'histoire du numérique. C'est-à-dire que le numérique aux États-Unis s'est à la fois développé dans toute, je dirais, l'hyperlibéralisme, la mondialisation. D'ailleurs, la mondialisation qu'on connaît n'aurait jamais pu exister sans le numérique, mais le numérique n'aurait jamais pu exister tel qu'il existe sans cette mondialisation, parce que sinon il n'y aurait pas eu les capitalisations boursières de Google et d'autres. Mais en même temps, c'est aussi le produit d'une contre-culture aux États-Unis. D'une contre-culture qui parle d'émancipation, qui parle de ce qu'on appelle l'éthique hacker, c'est-à-dire la capacité à ne pas subir une technologie, mais à soulever le capot. Et effectivement, il y a les start-up, mais il y a aussi les tiers-lieux. Et tout ça est très contradictoire, parce que parfois, on pousse les gens qui sont dans des tiers-lieux à créer des start-up, alors qu'ils ne le veulent pas nécessairement. Parce que le problème des gens qui sont souvent dans le numérique, c'est pas d'avoir une Rolex à 30 ans ou à 20 ans, mais c'est de faire, c'est de réussir, c'est de créer des choses. Donc, c'est toujours assez ambivalent. Et même sur les plateformes, il y a des plateformes coopératives. On parle d'Uber, mais si vous allez à la municipalité de Séoul, qui est une municipalité de gauche en Corée du Sud, vous avez un système qui est là entièrement coopératif et qui est géré à la fois par les usagers et par les chauffeurs, avec un vrai partage, enfin, une protection du commun que représente la ressource informationnelle.
C'est là le
problème, c'est-à-dire l'ambivalence de ce capitalisme, et c'est là la grande contradiction, c'est que ce capitalisme, il vit sur des communs numériques, et en même temps il les pille, et s'il les pille, il risque de les tuer. Et son gros problème, c'est que l'information est un bien sans rival. C'est-à-dire que quand je vous donne une information, là où nous donnons une information, je la possède toujours. C'est pas comme un produit matériel, un stylo, si je vous donne un stylo, je suis obligé d'en racheter un autre ou d'en fabriquer un autre. Et ça, la propriété privée, elle a beaucoup de mal autour de ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette contradiction. Le logiciel libre est à la fois soutenu par des gens qui sont des libertariens partisans de l'hypercapitalisme et en même temps des gens qui sont justement pour ce que Marx appelait une société des libres producteurs associés. Et les deux sont pas totalement faux. Mais ça reste à savoir comment la contradiction va se dénouer.
D'accord. Donc on va faire une pause musicale. On a déjà commencé à aborder un peu la deuxième partie sur les impacts, mais on va y revenir plus en détail. Donc on écoute La Mano Negra tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, décidément, 106.3 FM. On vient d'écouter Senior Matenza de La Mano Negra, donc l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic ce vendredi est consacrée à la nouvelle économie numérique. Je vais faire un point là sur l'actualité de la Fondation Copernic. Premièrement, donc l'espace commun des mouvements sociaux non droits contre leurs privilèges, qui réunit 34 associations et syndicats, lance une campagne d'expertise citoyenne et d'action. Il y aura une conférence de presse Action à 15h le dimanche 26 février, place de la République. Autre actualité, jeudi 2 mars à 19h précise à la Bourse du Travail, Donc il y aura un échange autour du le revenu universel d'un point de vue féministe, progrès ou régression pour les femmes. Donc c'est à la salle Jean Jaurès, 3 rue du Château d'Eau dans la Bourse du Travail. Également des échanges autour de l'ouvrage de Gérard Maget et Willy Pelletier sur les classes populaires et le vote Front National aux éditions Le Croquant, donc à l'Université de Picardie le 28 février à 17h30 et le 22 mars à l'Université de Poitiers. Et on peut aussi citer la parution d'un livre de la Fondation Copernic et des économistes atterrés sur le revenu universel. On revient au sujet du jour, sur la nouvelle économie et sur ses impacts et ses conséquences en termes sociaux, économiques.
Donc voilà, pour entamer cette partie, on va vraiment se focaliser sur des exemples concrets pour voir comment cette nouvelle économie, en particulier on pourra commencer sur le cas Uber, permettra de voilà qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle cause dans les problèmes salariales, sur la vie des personnes. Donc voilà, Yann, est-ce que vous pouvez engager là-dessus?
Déjà, le premier problème, c'est que les chauffeurs d'Uber ne sont pas des salariés, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les contraintes des salariés sans en avoir la protection sociale. C'est ça le premier problème. Et en plus, sur l'accumulation que fait sur le dos avec les 25% de rente, le patron d'Uber a dit « mais le problème chez Uber, c'est les chauffeurs. Donc moi, je prends 25% de rente pour justement préparer le remplacement des chauffeurs par des voitures autonomes. » Donc on voit déjà le problème. Et là, c'est typique, il y a eu plusieurs actions en justice aux États-Unis, en Europe et aussi en France. Alors sous des formes différentes, puisque chez nous, les class actions ne sont pas acceptées, pour requalifier les contrats en des contrats salariaux.
Parce qu'aujourd'hui, il faut préciser peut-être leur statut, ils sont auto-entrepreneurs.
Ah bah là, ils sont auto-entrepreneurs, à leur charge, toute leur protection sociale est à leur charge, mais par contre, ils ont des contraintes qu'on retrouve dans des contrats, parce que la définition du salariat, c'est un contrat de travail. Donc d'un côté, vous avez un lien de subordination avec l'entreprise. Ce qui existe chez Uber, ils sont obligés d'avoir la formation, la petite bouteille d'eau, etc., etc. Et en même temps, ils n'ont aucune protection. Et ils peuvent se faire virer du jour au lendemain, parce que, comme je vous le dis, c'est même pas un licenciement. C'est vous êtes désactivé de l'application. Enfin, c'est, on dirait, du Orwell. Mmh. Alors, mais Uber, c'est un cas, le plus excité. Après, il y a d'autres cas où le problème, c'est que les gens veulent travailler dans un cadre indépendant, mais ils veulent une protection sociale. Et ça, c'est une bagarre aussi pour trouver un système au niveau de, bien sûr, les nouvelles technologies permettent de la flexibilité et de la souplesse. Mais si derrière, il y a de la précarité, on peut pas demander aux gens d'être à la fois souples et précaires. C'est une catastrophe. Mmh. Parce que vous avez des gens dans toute cette nouvelle économie, ils ne trouveront jamais un logement sur Paris parce qu'ils n'ont pas de CDI.
Ouais, c'est...
Un petit exemple.
Est-ce qu'on a une idée sur le niveau de revenu de ces personnes-là? Parce que ce qu'on trouve comme information est assez disparate. Ça dépend bien sûr des moments où la personne travaille et des horaires qui sont plus rémunérés que d'autres. Ça dépend de son nombre d'heures. Est-ce qu'on a une vision là-dessus? Est-ce que c'est vivable d'être chauffeur sur Uber?
Ça pouvait l'être au début, mais maintenant ça l'est plus parce qu'il y a une concurrence féroce. Déjà, entre les salariés, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, les prestataires, on va dire, d'Uber, entre eux, hein, mais avec évidemment d'autres applications qui se lancent. Moi, je pense par exemple à l'application Hitch qui permet d'avoir des courses nocturnes. Vous avez rien à faire entre minuit et 2h du matin, allez proposer vos services sur la plateforme Hitch pour transporter des gens qui auraient besoin de vos services à cette heure-là. Et puis effectivement, Yann l'a dit tout à l'heure, ce qui arrive derrière, c'est l'utilisation sans doute demain de voitures autonomes. Donc on voit qu'au fur et à mesure, c'est le remplacement des salariés qui est de plus en plus exponentiel, quoi. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui malheureusement s'applique à bon nombre d'activités. On voit maintenant des plateformes se développer pour tout un tas de choses, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour le suivi de vos enfants à l'école. Hein. Vous pourrez bientôt, c'est déjà le cas, il y a des plateformes où vous pouvez acheter une copie personnalisée. Vous avez également
j'ai vu des sites où on peut demander à quelqu'un de faire le devoir de quelqu'un d'autre.
C'est ça, tout à fait. Hein, donc il y a le développement de ce modèle-là touche absolument tous les services en réalité. Enfin, potentiellement tous les services.
Alors, et on peut peut-être faire un aparté aussi sur les livreurs à vélo.
Les livreurs à vélo,
je pense à Take It Easy,
c'est ça. Qui Take It Easy, qui vous vous en souvenez a fermé ses portes brutalement et a laissé sans payer ses prestataires et en les laissant sur le carreau sans même les prévenir. Donc on voit que cet ensemble de services en réalité c'est une sorte de presque j'ai envie de dire de captation du temps des gens, parce que pourquoi vous avez recours à alors pour Uber c'est pour des motifs de déplacement, mais par exemple pour les plateformes de ménage en ligne dont le nom m'échappe, excusez-moi hein, mais ça existe, vous avez certainement vu les publicités dans le métro ou les prestations de copies ou de cours à domicile la possibilité de faire entretenir la tombe de votre grand-mère à l'autre bout de la France, si vous pouvez pas le faire, il y a une plateforme qui vous met en relation avec un travailleur sur place qui va le faire pour trois fois rien. Et c'est en réalité ce à quoi on assiste, c'est au retour tout simplement du tâcheron du 19e siècle. C'est-à-dire bientôt, nous serons payés à des jobs à 1 euro de l'heure. C'est ça en réalité qui est dans la ligne de mire. Et vous parliez tout à l'heure du salaire des chauffeurs Uber, on en voit, évidemment c'est très variable, hein, comme vous l'avez dit, on a assez peu d'informations absolument fiables parce que ça dépend du temps passé effectivement et puis de la situation dans laquelle se trouve le chauffeur, mais on voit des gens qui travaillent pour 60 heures par semaine pour un SMIC quand même, donc c'est une forme pure et simple d'exploitation dont qu'il faut bien évidemment dénoncer et qui est non seulement une exploitation parce que comme Yann l'a dit tout à l'heure les cotisations sociales ne sont pas payées, mais aussi parce que ils ont tout à leur charge, c'est-à-dire qu'y compris l'achat du véhicule, l'essence, etc. Donc il faut tout déduire et ils sont faussement indépendants en réalité parce qu'ils dépendent bien évidemment de la bonne volonté de la plateforme.
Yann, c'est ça le problème, le retour du tâcheron.
C'est une destruction parce que bon, l'exploitation salariale, c'est un dépassement du salariat mais par le bas. C'est le retour. Alors qu'on pourrait justement, au contraire, parce que quand même, le numérique en général apporte d'énormes gains de productivité. Alors, le problème, c'est que ces gains de productivité, ils sont totalement captés par la finance. Faut dire les choses comme elles sont. Par la finance, par la nécessité de rentabilité financière de ces start-up ou de ces start-up qui sont parfois le fauné d'autres grands groupes, et alors que effectivement ces gains de productivité, ils pourraient permettre de développer d'autres activités, de créer d'autres emplois, parce que après et où par exemple, d'abaisser considérablement le temps de travail. Parce qu'on parle toujours des robots qui vont piquer les emplois de tout le monde. Alors, les informations sont quand même un petit peu contradictoires là-dessus, parce qu'il y a des enquêtes qui parlent de 42%, d'autres 47% et d'autres 9%. Mais bon, on sait qu'il y a nécessairement l'automatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle va détruire beaucoup d'emplois. Mais ça, c'est toute l'histoire du progrès technique.
Hein.
Mais le problème, c'est que ça va être très rapide. Et le problème, qu'il y a que quelques personnes, quelques grands groupes qui captent cette valeur, enfin toute cette plus-value qu'ils font là-dessus, et qui n'est pas redistribuée pour avoir d'autres activités. Hein. Bon, il y a 300 ans, le premier employeur, c'était l'agriculture en France. Bon, maintenant, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale est payée justement parce qu'on redistribue de la valeur pour former les gens. Là, on voit aussi que dans notre société, il y a plein de problèmes, de besoins en matière de services publics, par exemple, qui ne sont pas couverts, et il n'y a pas d'argent pour les couvrir. En plus, avec, comme tu disais, une situation où d'un côté, on va créer des millions de chômeurs, et de l'autre, ceux qui vont travailler, ils seront soumis au burning out et on va casser complètement la frontière entre vie privée et vie au travail, parce que c'est le problème de la déconnexion. Alors certes, c'est dans la loi El Khomri, ça c'est un des rares points positifs, sauf que les sanctions, elles sont homéopathiques. D'accord, et puis l'inspection du travail n'a pas les moyens de vérifier réellement.
Alors je voulais revenir sur un point, quand vous avez parlé que les gains financiers, enfin du moins les gains en termes de productivité, étaient captés par la finance. Alors ma question c'est, bon, on a parlé de Take It Easy qui a fait faillite, Uber a priori a brûlé $1 milliard par semestre, est-ce que on est à, alors il y a des secteurs extrêmement rentables hein, comme Facebook, mais toutes ces plateformes là de mise à en relation de particuliers avec des auto-entrepreneurs, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce qu'il n'y a pas une bulle ou est-ce que, enfin voilà.
J'ai envie de faire la comparaison avec les cars Macron. Vous allez me dire mais pourquoi? Mais parce que c'est un petit peu la même chose qui se passe, c'est-à-dire que on met en place un service, enfin on donne la possibilité, on libéralise la possibilité, enfin le transport routier, on permet donc à des lignes de cars de s'installer à la place parfois, enfin bien souvent en concurrence avec des lignes de train, et puis on laisse faire. Et là, vous avez une efflorescence d'opérateurs qui se mettent sur le marché, qui proposent des trajets à des prix absolument défiant toute concurrence, comme on dit. Et au fur et à mesure, vous laissez le marché faire, et puis vous voyez que ça se finit par se stabiliser. Donc là, on n'est pas encore stabilisé, c'est-à-dire qu'il y a par exemple Megabus qui a fait faillite, et on va voir peu à peu les choses retrouver un étiage à peu près normal avec des prix qui vont bien entendu augmenter. Et je crois que c'est un petit peu pareil pour les plateformes, c'est-à-dire que on est là dans une surproduction de nouvelles plateformes, et à un moment donné ça va finir par se stabiliser. En attendant, effectivement on assiste peut-être à une forme de bulle, en tout cas c'est peut-être ce que l'on peut noter, mais en attendant c'est quand même très destructeur, parce que n'oublions pas quand même que ces plateformes, en tout cas pour ce qui concerne Uber, pour les autres c'est pas forcément le cas, mais pour ce qui concerne Uber ou les plateformes de livraison qui voient le jour actuellement en ce moment aussi, elles font du dégât parce qu'elles sont en concurrence avec des activités qui existent déjà. Par exemple, les taxis qui sont obligés d'acheter une licence, qui sont obligés de respecter un certain nombre de règles. Par exemple, quand vous allez prendre une course à l'aéroport, le taxi doit faire tout un tour, c'est-à-dire qu'il doit passer pratiquement la matinée avant d'arriver au point où il récupère la personne à véhiculer. Et là, Uber arrive et puis prend une concurrence déloyale. Exactement.
En fait.
Donc ça casse en réalité des marchés aussi qui existent déjà. Il y a des marchés qui se créent et qui sont pour l'instant, effectivement, dont on se demande quelle est leur rentabilité, même si c'est pas forcément le premier critère. Et puis il y a des marchés qui se greffent sur d'autres qui existent déjà et qui les détruisent en quelque sorte. Donc
comportement de prédation presque. Yann, vous vouliez compléter.
Ce que je crois, c'est bon. Cet aspect des plateformes, c'est très lié à une économie du low cost. Donc effectivement, dans une économie du low cost, il y a toujours beaucoup de morts, hein, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui est le monopole. C'est un grand classique.
Voilà, c'était.
Par contre, sur la robotisation, c'est autre chose. Parce que la robotisation, c'est un calcul économique, c'est-à-dire la capacité, soit avec des robots ou de l'intelligence artificielle ou des algorithmes, de remplacer tout ou partie, de certaines fonctions du cerveau humain. Alors ça détruit pas le travail, hein, parce que ça c'est souvent, d'ailleurs c'est une erreur fondamentale qu'a fait Hamon quand il est intervenu à la télé, un robot ne travaille pas. Le propre du travail, c'est l'être humain. Parce que l'être humain donne un sens à son activité. Un robot, il fait la guerre nucléaire, ou il joue aux échecs, ou il fait du trading à haute fréquence. Pour lui, c'est la même chose. Il n'y a pas de sens. Il fait des choses. Il a des tâches, il peut apprendre. Parce que l'intelligence artificielle, maintenant, on a des choses où on a des fonctions de notre cerveau de plus en plus complexes qui sont prises en charge par l'intelligence artificielle. Mais jamais une intelligence artificielle ne donnera de sens à ce qu'on fait. Mais par contre, effectivement, des entreprises en robotisant une partie de leur process, hein, que ce soit Amazon dans ses entrepôts ou Airbus pour l'instant, avec le même nombre de salariés qu'il y a 30 ans, produit 60 avions par jour, par mois à Toulouse, alors qu'ils en produisaient 10 il y a 30 ans. Mmh. Donc effectivement, il y a des gains de productivité gigantesques. Et ces gains de productivité, ni les salariés n'en profitent, parce que les gains de productivité, généralement, ça a toujours été une bagarre. Ça a été d'abord l'abaissement du temps de travail. Mmh. Toute l'histoire du progrès humain, ça a été de... Et alors là, on est sur une pente inverse. On était sur le pas de durée au temps de travail, les 48 heures, les 40 heures, les 39 heures, les 35 heures, enfin les 35 heures avec quelques problèmes. Et maintenant, on repart. Alors, bon, certes, le minimum légal en Europe, c'est 48 heures en théorie. Mais bon,
si tout le monde est auto-entrepreneur, effectivement, on va remonter. Alors, il y a un autre impact dont il faut qu'on parle, hein, quand même, c'est les impacts fiscaux. Puisque on voit, là on peut changer d'exemple peut-être, mais par exemple Airbnb, a priori sur les 65 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'ils ont fait en 2015 ou 2014 en France, bah, ils en déclarent 5 millions, leur assiette fiscale est de 5 millions, parce que ils considèrent le reste comme les 5 millions comme leur propre activité française, c'est-à-dire le marketing, et le reste est plutôt... dépend des algorithmes qui sont basés en Irlande, il me semble. Enfin voilà. Donc, dans quelle mesure ces plateformes finalement échappent ou construisent des stratégies fiscales ? Enfin, comment ça se passe
Déjà, elles font usage de quelque chose qui existait déjà avant le numérique, hein, qui est la possibilité de localiser son activité dans les paradis fiscaux. Par exemple, Google est installé, si je ne m'abuse, dans le Delaware, qui est un paradis fiscal américain. Et donc peut ainsi échapper à l'impôt. Et ça, c'est une stratégie que d'autres entreprises utilisent. Par ailleurs, hein, il n'y a pas que les entreprises liées au numérique. Mais il semble qu'effectivement, elles en font un usage exponentiel, effectivement, cette capacité de faire transiter les flux financiers d'un pays à l'autre. Et on voit bien que là, il y a une captation de la richesse, hein, mais pour notre pays, puis pour d'autres pays également.
Ouais, je pense que là-dessus, l'une des solutions, c'est de mettre en œuvre le rapport Collin et Collin, c'est-à-dire de taxer au flux de clics, au flux d'informations reçues. Parce que si on veut savoir la vraie activité de Google en France... C'est le flux d'informations de gens qui vont sur Google, et ça c'est totalement mesurable, parce que c'est ça qu'eux valorisent auprès des gens à qui ils vendent de l'espace publicitaire, qui est quand même leur... En fait, Google est une énorme agence publicitaire avant tout pour l'instant, enfin c'est l'essentiel pour l'instant de leur business, ça va un peu changer avec le transhumanisme, mais pour l'instant c'est l'essentiel de leur business. Mais là-dessus, à partir du moment où on taxe sur les flux... C'est imparable, parce qu'effectivement, les locaux de Google, c'est 3 chaises et 3 fenêtres et 5 ordinateurs en France. Mmh. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de taxer sur l'activité réelle et ce qu'ils récupèrent comme argent à partir du public français. C'est vrai pour les Allemands, les Chinois ou qui que ce soit.
Très bien. Alors, on va faire une nouvelle pause musicale. On va écouter Mauvaise Graine, Bad Click, et on reviendra sur ses impacts et sur les solutions ou sur les possibles pour la fin d'émission. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On vient d'écouter Mauvaise Graine de Bad Click, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic est consacrée ce soir à l'économie numérique. Juste avant de passer un peu aux solutions pour améliorer et faire en sorte que chacun s'y retrouve dans ce modèle et pas seulement les consommateurs et les actionnaires, mais principalement aussi ceux qui y travaillent. On va revenir un peu sur les impacts.
Oui, du coup, je laisse directement la parole.
Oui, tout à fait, parce que c'est un sujet qui m'importe, savoir comment, effectivement, la question, enfin, les usages du numérique ont aussi transformé d'autres secteurs de travail qui étaient moins directement touchés par ces questions-là, a priori. Bon, c'est vrai que le capitalisme a toujours cherché à pressurer le travail et à augmenter la productivité des travailleurs pour en tirer profit, mais là, je crois qu'on assiste quand même à une forme de, comment dire, dans la graduation des effets. Je pense quand on augmente ses capacités de pressurer les travailleurs, on change de nature aussi le travail, et on peut prendre pour cela l'exemple des usages du numérique dans, par exemple, les plateformes Amazon, de distribution Amazon, ou dans les drives, ça existe aussi, où vous avez en quelque sorte toute la panoplie des techniques qui sont utilisées pour permettre d'accroître la productivité des salariés. Donc déjà la surveillance, les usages de la biométrie, hein, c'est-à-dire que dans certains endroits, dans certains drives par exemple, quand vous rentrez en tant que salarié, vous devez vous identifier par identification biométrique, vous êtes surveillé du début jusqu'à la fin par caméra, et vous êtes également, ce qui est assez nouveau en réalité, c'est que tout le processus du travail est piloté par des petits boîtiers, hein, qui vous disent dans quel ordre vous devez aller saisir les produits. Mmh. C'est-à-dire que votre capacité même de jugement subjectif, individuel, et donc votre maîtrise sur ce que vous faites est d'autant plus amoindrie. Et ça produit des effets, parce qu'en réalité, à la limite, on peut même se dire que il n'y a même plus besoin de contremaître en réalité. La figure ancienne du contremaître dans les usines du 19e siècle, le contremaître, c'est l'algorithme. Et c'est terrible, parce que la possibilité du rapport de force avec la personne individuelle qui est en face de vous et qui incarne l'autorité,
n'existe plus.
Et ça, je trouve que, enfin, on le sait assez peu, mais ça produit des effets terribles de souffrance, hein. On peut penser à la façon dont la Poste utilise les smartphones pour pouvoir géolocaliser en permanence les salariés. C'est-à-dire que quand vous êtes postier, vous avez votre smartphone, vous avez bien entendu pas le droit de l'éteindre, ça va de soi, mais ce smartphone permet à la direction de savoir exactement à quel endroit vous êtes de votre tournée, le temps que vous mettez, tout cela est extrêmement minuté, le temps que vous mettez à livrer par exemple le colis ou le recommande, etc.
Nuit au contact humain, on l'a vu côté Amazon ou côté Drive, où on n'a plus le rapport à un chef qui peut analyser la situation et amoindrir si on a mis plus de temps parce qu'on a mal aux pieds, bref. Hein. Et d'autre part, dans le cadre de la Poste, l'aspect vraiment humain contact, où au fait du minutage, on peut pas passer 10 minutes avec la mamie du coin qui a besoin.
C'est ça, on va vendre ce service, hein, parce que vous savez que la Poste maintenant a des nouveaux contrats qui permettent de vendre ces services. C'est-à-dire que vous allez, au lieu d'estimer que le postier va rentrer tout naturellement comme ils le faisaient bien souvent avant pour vérifier si votre grand-mère allait bien ou pas, maintenant vous allez pouvoir payer le service et ce sera certainement beaucoup plus efficace dans l'esprit des dirigeants de la Poste. Mais vous voyez que
les minutes de conversation sont payantes aussi.
C'est ça.
Et donc, je pense qu'on a bien brossé. Alors, on y aurait de quoi dire encore énormément, et notamment sur le contenu des algorithmes. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, sur lequel vous travaillez, Laurence Pache. Mais on va aussi passer sur comment, et on pourra du coup peut-être évoquer ça, mais comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit envisager pour que les travailleurs, donc je sais pas si on a une idée aussi du nombre que ça représente, mais comment ces travailleurs peuvent aussi, ne plus être soumis à ce diktat de l'algorithme, ou du moins à cette tendance qu'on a soulevée. Donc est-ce que c'est législatif, est-ce que c'est de l'organisation, est-ce que il y a quelque part un rapport de force, comment on l'engage, Yann, le polotech.
D'abord, les lois et les institutions, c'est toujours le fruit d'un rapport de force. Hein. Ce qui hier était permis et peut être demain interdit, et ce qui aujourd'hui est permis peut être demain, enfin le contraire. Hein. Mmh. Donc bien sûr, c'est nécessairement un rapport de force qui va se créer et puis qui va déboucher sur des lois, des règlements, etc. Par exemple, ces questions-là, ça passe par le renforcement des rôles des CHSCT dans les entreprises, une véritable maîtrise des données personnelles, une souveraineté personnelle sur ces données personnelles, y compris pour les rémunérer, parce que y compris là, on est un peu dans une situation où on nous demande de prêter notre monde pour nous vendre l'heure, hein, quand même. C'est souvent un petit peu ça. La deuxième chose, c'est aussi, moi je pense qu'il faut aller aussi vers des systèmes de sécurité, emploi, formation. Moi je ne suis pas un partisan du revenu universel, mais par contre, on peut effectivement avoir une garantie de revenus, parce que ça demande aussi, ces nouvelles technologies demandent aussi de plus en plus de se former, de changer de métier. Donc les gens, il faut qu'ils aient une sécurité qui soit tout au long de la vie, la CGT pour une sécurité professionnelle. Donc, et c'est des dispositifs qui existent déjà de manière embryonnaire dans la société, parce que d'une certaine manière, le statut des intermittents du spectacle tel qu'il avait été conçu au début, c'était ça. Ce qui se passe avec une mutuelle de travail comme Copanam par rapport aux indépendants, c'est ça, puisque d'une certaine manière, elle resalarie les gens et elle permet de lisser leurs ressources. Et donc, ça leur apporte une certaine sécurité et matérielle et dans la société.
Ça fonctionne comment, juste?
Alors, Copanam, le principe, c'est que c'est une mutuelle de travail, c'est-à-dire qu'il y a tous les gens qui ont un statut d'indépendant, donc non salarié, pas nécessairement lié au numérique d'ailleurs, se regroupent en mutuelle, versent leurs revenus, qui peuvent être variables parfois d'un mois à l'autre, hein, et en échange la mutuelle, les salariés, donc ils bénéficient des protections sociales, et lissent leurs revenus. Et c'est une forme d'assurance collective. Parce que en même temps, on verse au pot commun. C'est une forme comme
les
mutuelles du 19e siècle avaient été les prémices de ce qui s'est passé avec la sécurité sociale. Et il y a des tas de possibilités qui sont en train de se créer. Par exemple, moi, je prends toujours l'exemple de la santé. Oui, d'accord, il y a un énorme risque avec les big data, c'est-à-dire au lieu de socialiser le risque santé, de l'individualiser via les assurances. Ça existe. Mais en même temps, c'est grâce aux big data qu'Irène Frachon a pu faire la preuve que le Mediator, parce qu'elle a eu accès à toutes ces données, que le Mediator était un véritable poison. Parce qu'elle n'en avait pas la preuve biologique, elle avait autant d'experts biologiques qui étaient pour elle que contre elle. Mais la preuve statistique qu'elle a donnée à partir du big data, donc, là aussi, sur le big data, il y a des solutions. C'est la licence Creative Commons. C'est la maîtrise sociale. Parce que je pense qu'il ne faut pas...
On en parlait dans une
faut pas avoir une vision de ludiste par rapport à ça. Je veux dire, la révolution industrielle, bon, ce qu'on parle, ça paraît très cruel. Mais la révolution industrielle du début du 19e siècle, elle était au moins aussi cruelle, si ce n'est pire. Oui. Y compris pour l'environnement, d'ailleurs.
Du coup, est-ce que ce cadre-là permettrait... selon vous, de bloquer et de cadrer des sociétés comme Uber pour qu'on ne retourne pas à ce travail uniforme du 19e siècle?
Moi je pense qu'effectivement il faut favoriser toutes les manières qu'on peut les modèles coopératifs, et en même temps je pense qu'il faut mettre des règles pour ce qui existe déjà. On parlait du rapport de force tout à l'heure, je suis bien évidemment d'accord avec ça, c'est-à-dire que là il y a le premier objectif, c'est la lutte là, parce que là il y a des situations concrètes qu'il faut résoudre. Et donc en ce moment, enfin vous avez dû voir que les taxis sont assez souvent en lutte sur cette question-là. Et donc il faut effectivement imposer des règles, et la première des règles, c'est que un travailleur qui est dépendant d'une seule plateforme devrait se voir reconnaître le statut de salarié. Et je pense que là, dans le droit, il y a quelque chose à faire évoluer. C'est-à-dire que, effectivement, certes, il faut valoriser les initiatives venant du bas qui tendent à produire des systèmes de coopération. Et en même temps, il faut introduire un cadre législatif qui protège. Et ça me paraît être vraiment, vraiment de toute urgence. quelque chose à mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas laisser la possibilité de la présomption d'indépendance ne devrait plus être inscrite comme telle dans la loi, ça devrait être l'inverse. Voilà. Déjà, la première chose à faire, c'est inscrire dans le droit cet élément-là.
Et pour les consommateurs, c'est-à-dire que, effectivement, ça fonctionne ici parce que nous, on consomme ce service. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous encourager, et ce sera dans les mots de la fin, quel message à faire passer à nos auditeurs pour s'engager, pour faire avancer cette cause?
Très rapidement.
Déjà, quand on achète un service comme celui-là, on achète le temps des autres. Et ça, je trouve que ce n'est pas anodin. Le capitalisme a toujours utilisé le temps, ça c'est certain. Mais là, il le fait de manière exponentielle. Et je crois que chacun devrait se poser la question de savoir à quoi il utilise son temps et de quelle manière il utilise le temps des autres. Donc ça, je pense que c'est peut-être un message un peu sur l'ordre du principe. Premier principe à s'imposer à soi-même. Et après, on a aussi la possibilité... D'agir collectivement pour effectivement soutenir plutôt les plateformes coopératives que les plateformes non coopératives. Je pense que chacun aussi est responsable dans ses actes de consommation citoyenne ou pas, et aussi dans les projets politiques qu'il porte.
Bien prendre conscience que si le produit est pas cher, il y a quelqu'un qui le paye.
Exactement.
Il y a vraiment une question de culture numérique, c'est-à-dire que moi, faut pas être technophobe. Mais il faut que dès l'école et à l'université et partout, qu'on apprenne les humanités numériques, qu'on apprenne l'éthique à cœur, à soulever le capot, à reprendre la maîtrise des outils techniques. Outils techniques, à partir du moment où on les maîtrise, où on les l'appropriation des outils de production, c'est pas seulement l'appropriation en termes de propriété, c'est aussi en termes de connaître comment ça marche et en détourner, parfois en transgresser les usages.
Très bien, mais c'est le mot de la fin, donc vous pourrez réécouter l'émission sur les sites web de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org et mode-d'emploi.net. Le prochain numéro de Mode d'emploi sera animé par la Fondation Copernic le 24 mars et sera consacré au bilan de la présidence Hollande. L'émission sera rediffusée sur cette même antenne 106.3 FM mercredi à 7h du matin. On vous remercie très fortement Yann et Laurence d'être venus ce soir.
Merci.
On finit par Radiohead. Bonne soirée à tous. Mmh.